Nous accueillons le porte-parole du gouvernement congolais, Monsieur Lambert Mende. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ici en visite à Washington. L'actualité chez vous à Kinshasa, ce sont ces discussions qui continuent concernant cet accord du 31 décembre. Est-ce qu'on va parvenir à un accord final? Est-ce que, selon vous, l'inclusivité, l'inclusion qui a été demandée par la majorité présidentielle va être enfin acquise, selon vous?
À ma connaissance, les évêques ont commencé à travailler, à trouver cette inclusion. Je pense qu'ils se sont bien débrouillés jusque-là. Aujourd'hui, je pense qu'ils continuent leurs contacts. Ce sont des gens très respectés. Nous avions toujours dit que lorsque les Congolais se retrouvent entre eux, il y a souvent des chances que des solutions soient trouvées. Les évêques, ce sont nos évêques, ce sont nos frères qui sont des responsables de l'Église catholique et ça met tout le monde plus ou moins en confiance. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de douter qu'on arrivera à rapprocher les points de vue.
Que pensez-vous des dissensions entre le Rassemblement d'une part et le Front? Par exemple, le MLC n'a toujours pas signé l'accord.
Nous parlons du Front pour le respect de la démocratie qui est piloté par le MLC. Je pense que je n'ai pas à expliquer leur position, quoique elle me paraisse quelque part plus ou moins logique et fondée, parce qu'elle parle de la nécessité d'une répartition des rôles à leur niveau. Il y en a qui doivent diriger le gouvernement, puis il y en a qui doivent contrôler l'action de ce gouvernement avec l'action de l'autorité chargée d'organiser des élections. Il est normal que l'on cherche à ce que des forces différentes puissent occuper ces différents postes. Mais c'est un débat interne à l'opposition.
Samy Badibanga, le Premier ministre, n'a toujours pas signé cet accord. Pourquoi ?
Je pense qu'il soulève une question de principe dans la mesure où l'accord a été bouclé en l'absence des forces qu'il représente. Vous savez qu'il est à la tête d'un groupe parlementaire très important, le deuxième après la majorité présidentielle au niveau du Parlement, et que lorsqu'on est dans une telle position, je pense qu'on a des raisons d'exiger d'être pris au sérieux.
Que pensez-vous de la possibilité d'avoir un Premier ministre Félix Tshisekedi et un Étienne Tshisekedi qui serait en charge de l'organe de suivi de l'accord de la transition?
Je voudrais éviter de parler de personne parce que jusque-là, nous n'avons pas encore abordé cet aspect-là. Nous nous sommes limités à dessiner le profil du prochain Premier ministre que nous attendons voir l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre nous présenter. Est-ce que ça sera M. Félix Tshisekedi? Je n'en sais rien.
Le Rassemblement y est favorable.
Je n'appartiens pas au Rassemblement, ils ne nous l'ont pas encore présenté. Lorsqu'il le présentera, le moment viendra pour nous de nous prononcer à ce sujet-là. Mais je pense que c'est le débat qui est en train d'avoir lieu au sein de l'opposition elle-même. Et je pense qu'il faut laisser l'opposition finir ce débat avant que nous puissions nous en mêler. Parce que nous avons décidé de confier cette responsabilité à l'opposition.
Mais une chose est sûre, il y aura un changement de gouvernement suite à cette nomination qui interviendra sous la proposition de l'opposition d'un nouveau Premier ministre.
Lorsque l'inclusivité sera accomplie, oui, absolument, parce que nous estimons que l'accord du 31 décembre, pour autant qu'il devienne plus inclusif qu'il ne l'a été jusque maintenant, jusqu'au moment où je quittais le pays, deviendra un accord qui va pouvoir mettre tout le monde d'accord. Et à ce moment-là, je pense qu'il n'y a aucune raison de douter que c'est l'opposition qui va présenter un autre Premier ministre. Mais pour l'instant, je n'ai pas des nouvelles en ce qui concerne la position de ceux qui ont hésité à signer l'accord du 31 décembre. Il faut que les choses avancent à ce niveau-là pour que nous soyons sûrs que l'accord du 31 décembre ne connaisse pas le sort de l'accord du 18 octobre.
Qu'en est-il de la libération des prisonniers politiques ?
Les prisonniers politiques, ou ceux que l'on appelle ainsi, il y en a 7 qu'on nous a présentés comme emblématiques. Il a fallu se rendre à l'évidence que certains se trouvaient à l'étranger. On a pu, avec la commission des magistrats, puisqu'il n'est pas question de violer l'indépendance de la magistrature, nous avons confié cette tâche à une commission de hauts magistrats qui a pu répondre positivement et assez rapidement à 4 dossiers sur les 7 qui lui avaient été confiés. Et les 4 personnalités, il y en a 3 qui sont à l'étranger et qui peuvent rentrer au pays parce que le parquet a accepté d'abandonner les poursuites. Il y a une quatrième personne qui est en détention et pour laquelle le parquet aussi a accepté d'abandonner les poursuites. Et je pense que tout est question de formalité. Comme l'a dit le ministre de la Justice, on n'entre pas dans une prison comme dans un marché. On n'en sort pas comme d'un marché. Donc, il faut attendre que les ordres arrivent au procureur qui gère l'établissement pénitentiaire où il se trouve. Mais la décision ayant déjà été prise, je pense que tout le reste n'est que question de jours ou même d'heures.
Le cas Moïse Katumbi, c'est un point de blocage ?
Non, je ne pense pas que ça puisse consister en point de blocage. C'est un point de principe. Dans la mesure où l'État congolais avait reproché à Moïse Katumbi des problèmes concernant la sécurité de l'État, il aurait été facile pour l'État d'abandonner les poursuites. Et tous les cas pour lesquels la commission des magistrats est arrivée à une décision d'abandon de poursuite concernaient des cas où l'État était préjudicié. Vous savez, lorsqu'il y a un complot contre l'État, l'État peut abandonner les poursuites. Mais le cas de Moïse Katumbi se complique par le fait qu'il y a non seulement ce cas pour lequel il y a des poursuites, qu'on pourrait éventuellement abandonner, mais il y a aussi une condamnation pour spoliation de biens privés et escroquerie, c'est-à-dire des préjudices de privés. Le préjudice se fait au détriment de personnes privées. Et là, l'État ne peut pas se substituer à des personnes privées pour décider d'abandonner quoi ? Une plainte. L'État ne peut pas décider d'abandonner une plainte qui a été introduite par un privé. Et donc, il y a eu beaucoup d'impatience chez les amis de M. Katumbi et les magistrats ont dû se dessaisir de cette question pour la confier aux évêques. Qu'est-ce que les évêques vont faire ? Probablement négocier avec les privés qui ont maille à partir avec M. Katumbi. Il n'y a que ça, puisqu'on ne peut pas décider à la place de personnes qui ont déposé plainte. Ils ont les mêmes droits que vous, que moi ou que M. Katumbi.
Mais d'un point de vue personnel, pour jouer l'apaisement, vous seriez favorable à l'abandon de ces poursuites ?
Mais ça dépend de la personne en question. S'il a perdu une maison et que M. Katumbi décide de la lui remettre, je pense que des arrangements sont possibles, mais c'est des arrangements qui sont entre lui et des personnes privées qui ont été victimes de faits de M. Katumbi. Ce n'est plus l'État et donc je ne peux pas parler au nom de personnes privées.
Est-ce qu'on votera avant la fin décembre 2017 pour la présidentielle en RDC ?
Tout dépend de la Commission électorale nationale indépendante.
Qui avait déjà annoncé qu'on devait voter en 2018.
Donc là, je pense qu'on est allé un peu vite en besogne. Je pense qu'il faut reconnaître qu'on a été trop optimiste en n'écoutant pas les experts. Je pense que vous vous rendez compte que l'accord du 31 décembre ne fixe même pas de date. Donc on a idéologisé une question qui est, à mon avis, une question technique. Je pense qu'il eût été plus sage de résoudre ce problème en écoutant les techniciens, parce que c'est eux qui font l'enrôlement, c'est eux qui organisent la diffusion du matériel électoral, c'est eux qui organisent les opérations électorales. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme banal, dans la mesure où nous avons un pays continent de plus de 2 500 000 km² avec des infrastructures routières qui sont dans un état, disons-le clairement, lamentable. Et donc, il vaut mieux écouter les techniciens plutôt que d'idéologiser des problèmes qui sont politiques.
Donc, possible élection en 2018, finalement, si on suit ce qui avait été annoncé, notamment par Corneille Nangaa, le président de la CENI.
Ah, il faut absolument écouter les techniciens. Moi, je pense qu'en matière électorale, c'est une matière dans laquelle les politiciens doivent avoir l'humilité d'écouter les techniciens parce qu'ils n'ont pas le know-how, comme on dit. C'est les techniciens qui organisent cela. Au Congo, on a dépolitisé la matière électorale pour la confier à des techniciens. Il faut les écouter.
Est-ce que l'argent est là pour ces élections ? Vous attendez encore des fonds ?
Pour ce qui concerne l'argent, il a été décidé que le gouvernement donnera priorité aux élections. On a besoin de, au bas mot, 1 milliard 800 millions. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va devoir s'imposer beaucoup de sacrifices parce que le budget n'excède pas 5 milliards. Il va falloir construire moins d'écoles, construire moins d'hôpitaux, faire moins de routes, peut-être demander des sacrifices aux fonctionnaires et aux institutions pour que le Congo puisse avoir des élections qui sont le point de départ d'une mise en ordre du pays.
Et aujourd'hui, vous confirmez que le président Kabila quittera le pouvoir lorsque son successeur aura été élu ?
Le président Kabila ne peut pas ne pas respecter la Constitution. Tel est le prescrit de la Constitution. Il a prêté serment à la Constitution. Et la Constitution ne prévoit pas la possibilité d'un troisième mandat consécutif pour un chef d'État. Cela coule de source.
Aujourd'hui, que dites-vous? Vous êtes à Washington. Que dites-vous aux autorités américaines? Il y a eu ces sanctions qui ont été prises contre des responsables de l'armée, contre des responsables du gouvernement. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux Américains?
Ces sanctions sont totalement illégales, elles sont totalement injustifiées et je ne suis pas mécontent qu'elles soient le fait d'une administration qui est sur le départ et qui a déçu beaucoup d'Africains. Il y a eu beaucoup d'espoir. Malheureusement, on se rend compte que l'action de cette administration vers la fin s'est inscrite dans le droit fil d'une certaine façon de voir les Africains comme des gens auxquels on pouvait imposer des choses même qui ne sont pas acceptables. Vous savez, vous ne prenez des sanctions contre un pays qui n'est pas le vôtre qu'en passant par le Conseil de sécurité ou en étant en guerre contre ce pays pour des intérêts de votre pays directement. Mais on ne prend pas des sanctions contre un pays parce qu'il y a une vitesse de démocratisation qui est trop lente, parce qu'il y a des violations des droits de l'homme dans un pays, sans passer par le Conseil de sécurité. Je pense qu'ils vont s'en rendre compte parce que nous allons saisir toutes les voies de droit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Union européenne où on a imité ce qui s'est passé ici, aux États-Unis, pour démontrer que ces sanctions n'avaient aucune raison d'être prises.
Kinshasa pourrait prendre des mesures de représailles?
Nous n'en sommes pas encore là, mais pourquoi pas? Parce que lorsque des gens se permettent de prendre des décisions qui vont à l'encontre du droit international, il est évident qu'il faut faire tout pour attirer leur attention sur le fait que cela peut avoir des conséquences sur leurs propres intérêts aussi.
Ces sanctions ont été prises à la suite de nombreux rapports dénonçant notamment une volonté de museler l'opposition et toute voix dissidente en RDC, notamment les ONG. Qu'est-ce que vous répondez?
Mais personne n'a chargé les États-Unis ou l'Union européenne de faire la police au niveau international. La police au niveau international, cher ami, elle est faite par le Conseil de sécurité. Alors, s'il y a des soucis à ce niveau-là, on s'adresse au Conseil de sécurité. On ne se substitue pas au Conseil de sécurité des Nations Unies. On pose le problème au niveau du Conseil de sécurité qui seul a la police en ce qui concerne les problèmes qui sont relatifs à la sécurité, à la menace sur la paix mondiale ou la sécurité internationale. Ce n'est pas nous qui avons écrit le droit international, ce ne sont pas les Américains, ce n'est pas l'Union européenne. Ce qui se passe vis-à-vis de la République démocratique du Congo est une forfaiture, totalement inacceptable.
Et sur ces accusations, notamment d'arrestation d'opposants ou de vouloir empêcher le droit de manifester, que répondez-vous?
Je ne pense pas qu'on ait empêché à quelqu'un de manifester. Ce qu'il y a, c'est qu'on a empêché quelqu'un ou à des gens de poser des actes criminels au cours d'une manifestation autorisée. C'est différent. Lorsque des gens sont autorisés à manifester, c'est le cas au mois de septembre, et qu'ils se mettent à brûler des policiers, à brûler des maisons, à violer des petites filles parce qu'elles ne participaient pas à leur manifestation, à violer des femmes, etc., et que la police rétorque à cela, je ne pense pas qu'on peut considérer cela comme une violation des droits de l'homme. C'est le travail de la police d'assurer que les non-manifestants aient aussi leurs droits garantis par l'État. C'est cela même. Si on avait écouté ces gens avant de les sanctionner, si on était allé par exemple au Conseil de sécurité, on aurait pu écouter ces gens si le Conseil aurait été compétent pour entendre des justifications des uns et des autres, on serait arrivé à la conclusion que ces gens ne faisaient que leur devoir. Et donc nous nous élevons avec la plus extrême fermeté contre des interprétations qui sont des interprétations politiciennes et auxquelles on veut donner de la consistance parce que des gouvernements étrangers essayent de les relayer à leur tour. C'est tout.
Comment analysez-vous les mouvements comme Lucha ou Filimbi en République démocratique du Congo?
Nous ne pouvons pas encourager l'anarchie dans notre pays. Nous n'avons rien contre les jeunes de Lucha ou de Filimbi. Nous leur demandons simplement de se faire enregistrer comme mouvement pouvant opérer en territoire congolais. On ne peut pas opérer aussi aux États-Unis sans être enregistré quelque part. Si vous organisez un meeting sous le label de Lucha ou Filimbi et qu'il y a des dommages qui sont causés à des tiers, qui va-t-on interpeller si vous n'êtes pas enregistré? Voilà le problème. Est-ce que nous voulons une jungle ou un état de droit? La question est là. C'est le problème qu'ils ont avec la police. Chaque fois qu'ils veulent manifester, on se rend compte qu'ils ne sont enregistrés nulle part. C'est une façon d'encourager l'état de droit chez nous, c'est de dire à quiconque veut s'exprimer de s'identifier. Ce n'est pas bousculer quelqu'un que de lui demander de s'identifier. Je pense que l'état de droit fonctionne avec ces fondamentaux-là.
un rapport de l'agence Bloomberg sur les liens économiques de la famille Kabila avec de nombreuses entreprises de la République démocratique du Congo a fait beaucoup de bruit dans le monde. Quelle est votre analyse de toutes ces informations qui ont été dévoilées par l'agence Bloomberg?
Je n'ai pas vu ce rapport, mais si Bloomberg a des problèmes avec tel ou tel membre de la famille du président, je pense que Bloomberg peut publier et ceux qui sont cités peuvent se justifier, encore que je ne connais aucune disposition de notre législation qui interdise à quelqu'un de faire du commerce parce qu'il appartient à la famille du président. À ma connaissance, non, je ne connais pas. Moi, je suis interdit de faire du commerce parce que je suis ministre. Mais si quelqu'un de la famille du président n'est pas limité par le droit, il peut faire du commerce. Je ne vois pas où est le problème légalement.
Et le président lui-même ?
Le président lui-même, à ma connaissance, on n'a pas parlé de lui, on a parlé de ses proches. Vous voyez, lorsqu'on ne parvient pas à l'attaquer, on va par ses proches, mais je n'ai pas lu quelque part qu'il était mis en cause individuellement.
Il n'y a pas de danger de conflit d'intérêts, c'est ce qui a été beaucoup dénoncé à l'époque.
Qu'il y ait danger de conflit d'intérêts, ça peut être le cas, mais encore faut-il prouver que cela est vrai, que cela a pu arriver, que des gens n'ont pas payé ce qu'ils doivent payer, par exemple, en termes de taxes ou de redevances ou d'impôts parce qu'ils appartiennent à la famille du président. Mais le fait d'appartenir à la famille du président n'empêche pas quelqu'un de faire du commerce, de commercer, de vendre, d'acheter. Je pense que c'est un pays libre que nous avons voulu construire.
Dernière question. Vous êtes le porte-voix du régime Kabila depuis de nombreuses années. Vous resterez coûte que coûte jusqu'à la fin et vous êtes fier d'avoir servi le président Joseph Kabila.
Je suis d'abord un élu lumumbiste du centre du pays. Joseph Kabila est un élu lumumbiste de l'ensemble du pays. Nous appartenons à une alliance, une coalition qu'il a montée il y a quelques années qui s'appelle la majorité présidentielle. Je vous assure que je suis très fier d'appartenir à cette majorité parce que ce pays doit beaucoup à Patrice Lumumba, ce pays doit beaucoup Hamzé Laurent Désiré Kabila, et donc je suis très fier d'appartenir à cette coalition qui est aujourd'hui dirigée par le président Joseph Kabila, quel que soit par ailleurs le rôle qu'il lui sera donné de me demander de jouer, porte-parole du gouvernement ou ailleurs, je serai toujours là, fidèle à mes idéaux lumumbistes.
Lambert Mende, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.